France Inter.
Leur philo. Bienvenue dans Leur philo, Lilian Allôm à la réalisation, Chantal Le Montagne à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Julien Thévenot à la console.
Leur philo. Patricia Martin, sur France Inter.
Ce besoin de s'indigner, ce besoin de dire non à une société mondiale mal gérée, il est maintenant très général, même en Corée du Sud. Il faut s'indigner d'abord, mais naturellement, il ne faut pas en rester là. Il faut essayer de s'engager pour que ce qui vous indigne soit combattu efficacement. À ce point, à propos, il ne suffit pas de crier, il faut agir.
Indignez-vous, ces paroles de Stéphane Hessel résonnent encore en nous, et pour cela il faut agir, nous dit-il. Agir, ce peut être désobéir. Pourquoi? Au nom de quoi? C'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Frédéric Gros et Clotilde Le Guil sont nos invités. Clotilde Le Guil est psychanalyste et philosophe, professeur au département de psychanalyse de Paris 8. Son dernier livre s'intitule « La déprise », essai sur les ressorts intimes de la désobéissance. Il est publié au Seuil. Frédéric Gros, vous êtes également philosophe, professeur de pensée politique à l'Institut d'études politiques de Paris et chercheur au Centre de recherche politique de Sciences Po. Votre essai « Désobéir », sorti chez Albin Michel, est désormais édité en poche. Est-ce qu'il faut que l'indignation précède, je dirais, la désobéissance, pour en revenir au propos de Stéphane Hessel?
Je pense qu'elle la précède toujours, puisque pour désobéir, il y a quand même une espèce de ferment, de brûlure éthique qui est le sentiment d'injustice, le sentiment d'injustifiable, etc. Après, c'est très beau la manière dont Stéphane Hessel dit « il faut s'indigner d'abord ». Et le « d'abord » suppose évidemment un « ensuite », parce que le problème de l'indignation, c'est que c'est une posture d'énonciation qui est tout à l'honneur de celui qui la porte. Il y a quelque chose de très grandiloquent dans l'indignation, et si elle n'est pas suivie d'un engagement, comme il dit, ou d'une désobéissance, comme vous l'avez supposé, bah, ça reste quelque chose comme une posture, et on voit des tas de politiciens aujourd'hui, et je dis bien politiciens et pas d'hommes politiques, qui ne cessent de s'indigner en prenant des postures.
Est-ce que désobéir, ça s'apprend, parce que ça va pas de soi. Quand on est enfant, on nous incite plutôt à obéir. D'ailleurs, vous reprenez à ce sujet des propos de Kant qui dit que la discipline, c'est pour que les enfants, qu'on enseigne à l'école, c'est pour apprendre aux enfants à rester tranquilles.
Ah oui, moi je pense qu'on ne peut désobéir que si on a commencé à bien obéir. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui fait partie de l'éducation des enfants, on leur apprend évidemment à obéir. Mais le propre de ce qu'on a pu appeler une éducation un peu éclairée, c'est que cette obéissance devait simplement servir précisément à pouvoir constituer un peu un espace propre de jugement depuis lequel, effectivement, on pourrait s'autoriser à désobéir. C'est-à-dire, le problème de l'obéissance, c'est qu'il ne faut pas que ça dure tout le temps. Il ne faut pas que ça devienne ni une habitude mentale, ni un automatisme de pensée.
Clotilde Le Guil, avec vous, c'est une plongée dans nos laboratoires intimes. Il est question de rencontres amoureuses, de consentement, de devoirs, de désobéissance et d'obéissance. Et dans une rencontre, vous expliquez bien dans votre essai qu'il y a c'est à la fois une possibilité de se perdre en oubliant son propre désir et qu'en même temps, c'est aussi une ouverture. Il y a ce double mouvement.
Pour dire un petit mot par rapport à ce que vient de dire Frédéric et par rapport à la question de l'indignation, ce que je trouve intéressant, c'est de reprendre la question politique qui était celle de la philosophie des Lumières, en considérant finalement que ce qui nous en reste, c'est ce questionnement qui doit nous revenir à chacun. À quoi est-ce que j'obéis? À quoi est-ce que je choisis d'obéir. Et au fond, si on ne se pose pas cette question, d'une certaine façon, on renonce à cette responsabilité, à ce noyau éthique, comme le nomme Frédéric Gros, que chacun porte en soi, et qui nous conduit aussi à être à même d'assumer le prix que peut nous coûter une désobéissance quand elle s'avère en quelque sorte vitale.
Et alors dans la vie intime, est-ce que par exemple tomber amoureux, c'est se déprendre de soi, c'est-à-dire c'est s'en remettre d'une certaine façon à l'autre ?
Oui, alors moi j'ai voulu aborder la question de la désobéissance dans le champ de l'intime, d'abord parce que j'avais ce premier questionnement philosophique qui est qu'est-ce qui fait que dans certaines expériences on ne parvient pas à désobéir. Qu'est-ce qui fait qu'on ne parvient pas à se défaire de ce qui vient faire emprise sur notre désir ? Mais pour traiter de cette question, il m'a fallu d'abord en revenir à une première expérience de déprise de soi, qui est une expérience joyeuse, une expérience aussi vitale, une expérience qui est celle qui permet la rencontre et l'ouverture à l'autre, qui est donc l'expérience de l'événement amoureux. Donc j'ai d'abord voulu partir de, finalement, cette première figure de la désobéissance qui fait que, lorsqu'on consent à un événement amoureux, on se déprend, en quelque sorte, d'un programme, on se déprend aussi de son narcissisme, on se laisse bouleverser par ce qui nous arrive, et d'une certaine façon, c'est une première dimension de désobéissance, de douce désobéissance. Mais effectivement, il y a une deuxième dimension que j'explore dans la déprise, un deuxième sens de la déprise, qui est le point où cette déprise première en faveur de l'autre qui se produit lorsqu'on consent à l'événement amoureux, peut amener dans un second temps à une forme d'emprise qui fait que le sujet en vient à se sentir sous le coup d'une autorité qui s'exerce sur lui depuis le champ de l'amour. Et c'est là que j'ai essayé d'éclairer ce qui faisait que un sujet ne parvenait pas à se défaire d'une emprise et d'interroger finalement ses ressorts intimes de l'emprise.
Frédéric Gros, est-ce qu'on peut se désobéir à soi-même, au fond ?
La grande, pas difficulté, mais en tout cas complexité de tous ces termes, c'est que, assez vite quand même, obéir à l'autre, ça peut amener à désobéir à soi-même, c'est-à-dire que en obéissant aux injonctions de l'autre, on renonce à certains de ses désirs, pour reprendre le terme qui est pris par Clotilde Le Guil. Et parfois, au contraire, effectivement, désobéir à l'autre, on le fait, c'est le problème de la désobéissance civile, pour mieux obéir à soi. Donc, ce qui est très très beau dans le livre de Clotilde, c'est la manière dont elle montre qu'au fond, désobéir comme aimer, ce sont des verbes qui se conjuguent à la première personne. Et quand je dis que ça se conjugue à la première personne, je veux dire cette personne par laquelle on ne peut pas se faire remplacer. Les choses les plus importantes sont les choses dans l'existence pour lesquelles on ne peut pas se faire remplacer, pour lesquelles on est irremplaçable, pas au sens où on est unique, mais parce que c'est à moi de le faire. C'est quand même à moi de le faire. Je peux, si j'ai des photocopies à faire, demander à un collègue de les faire à ma place. Je n'irai jamais lui proposer sauf Cyrano de Bergerac, quoi, de lui proposer d'aimer quelqu'un à la place. Et désobéir, c'est pareil. Désobéir, ça se fait à la première personne. Parce que, et c'est là qu'on trouve cette espèce de verticalité que votre question suggérait, parce qu'au fond, dans la désobéissance, désobéis de mon propre chef, c'est-à-dire j'obéis d'abord à moi-même, et c'est ce qui fait que j'obéis d'abord à moi-même.
Clotilde Le Guil ?
Oui, il est vrai que dans le consentement à l'événement amoureux, il y a consentement, mais il y a aussi une forme de désobéissance au sens où je me détache des normes de l'époque, je me détache de certaines injonctions, je me détache d'un certain conformisme, et il faut ce détachement, donc cette forme de désobéissance à certaines normes sociales, pour accueillir un événement qui est toujours hors programme et qui ne répondra jamais à un certain idéal auquel j'ai pu croire depuis certaines normes intériorisées. Donc effectivement, il y a quelque chose qui m'arrive en propre dans l'événement amoureux, et je suis tout à fait d'accord avec le fait que cela confère un statut de non-substituabilité du sujet comme de non-substituabilité de l'autre. C'est-à-dire que l'autre que je rencontre dans cet événement est aussi celui qui me dit ce que jamais on ne m'a dit, et donc qui par là même prend un statut tout à fait singulier dans mon existence.
Le sociologue Manuel Cervera Mazal, qui nous parle d'Henry David Thoreau, un philosophe américain du 19e siècle, donc penseur engagé s'il en fut, c'est d'ailleurs pas la première fois que nous l'évoquons dans l'heure philo, c'était sur France Culture en 2017.
Il s'agit bien là de la question de la désobéissance en démocratie, pas sous un régime totalitaire ou autoritaire, parce que dans ce genre de cas, il n'y a aucun problème qui se pose, on reconnaît assez spontanément qu'il est légitime, voire même nécessaire, de désobéir face à un tyran qui viole manifestement les droits humains et la souveraineté du peuple. Par contre, lorsqu'on est dans un régime démocratique, dans un régime républicain comme celui des États-Unis de la moitié du 19e siècle, la légitimité de la désobéissance est beaucoup moins évidente, puisqu'on peut tout de suite dire à ceux qui se révoltent mais au nom de quoi est-ce que vous vous autorisez à sortir du cadre de la loi, alors que le propre de la démocratie, c'est de permettre aux mécontents de glisser un bulletin de vote dans l'urne pour exprimer leur mécontentement. Et Thoreau nous dit, mais non, mais c'est largement insuffisant ce bulletin de vote. Peut-être, éventuellement, mais il a cette phrase très percutante où il dit « Voter pour la cause juste, c'est ne rien faire pour la justice. Si on vous vole votre portefeuille, vous n'allez pas vous contenter de rouspéter, vous allez agir. Voter, c'est, il dit, c'est s'en remettre au hasard, parce que finalement, vous ne savez pas qui va l'emporter. Et après avoir voté, vous rentrez chez vous tranquillement et puis vous acceptez que les gagnants légifèrent pendant tout le quinquennat. » Et il dit, mais ça, c'est un engagement bien trop timoré, bien trop faible. Si vraiment vous croyez en vos idées, si vraiment vous avez la conviction que ce que vous pensez être juste, c'est juste et ça doit s'appliquer, alors dans ce cas-là, il faut arrêter de vous prélasser au bord de votre cheminée, il faut sortir dans la rue. Il dit, la destinée du pays ne dépend pas du type de bulletin que vous glissez dans l'urne une fois tous les 5 ans, mais du type d'homme que chaque matin, vous déposez dans la rue.
Federico, vous en parlez de Thoreau dans votre essai. Pour lui, la désobéissance est liée aux exigences de la vraie vie. C'est la vie quoi, la vraie vie? C'est la vie sauvage?
La vraie vie, c'est d'abord celle que je suis capable de mener à la première personne. C'est-à-dire c'est le fait de ne pas se laisser coloniser dans ses désirs. C'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que quand je désire ceci, quand je veux mener telle ou telle existence, je ne réponds pas à des injonctions qui seraient toujours sociales. Donc là, ce qui fait que quelque chose comme une vraie vie existe, c'est encore une fois qu'elle se conjugue à la première personne.
Mais Thoreau, il est allé loin quand même. C'est une sorte de Diogène, non, on peut dire, je sais pas.
C'est une sorte de Diogène, effectivement, parce que, c'est aussi sa parole, finalement, la philosophie, ça se fait pas dans les livres.
Lui, il était dans une cabane, il vivait dans une cabane, il refusait de payer ses impôts.
Ouais. Donc, il est allé en prison pour ça. Il a écrit un de ses premiers manifestes, enfin, qui est apparu comme un précurseur des mouvements de la désobéissance civile. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un grand marcheur aussi, parce que c'est la même chose. Quand j'ai envie, je me vois pas dire à quelqu'un, faut que je fasse une promenade. Est-ce que tu peux la faire à ma place? Parce que j'ai pas le temps. On revient toujours sur la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, la vraie vie, c'est celle que je vis à la première personne, et je ne peux désobéir qu'à la première personne.
C'est ce que dit Thoreau, hein. Personne ne peut être moi à ma place, personne ne peut désobéir à ma place.
Oui, c'est très beau, c'est cette idée. Et si je ne suis pas moi, qui sera à ma place? Qui sera à ma place? Personne. Et donc, le problème, c'est que cette question puisse vibrer en chacune et chacun d'entre nous et soit quelque chose comme le prélude à une réappropriation à la fois éthique et politique. Tout le passage qu'on a entendu justement sur cette espèce de critique de la démocratie représentative qui consiste à dire c'est quoi la politique, ben je glisse mon bulletin de vote, c'est-à-dire je laisse quelqu'un décider à ma place au fond. Alors après c'est compliqué, on va se dire mais comment faire autrement? Bien sûr, mais quelque chose comme une désappropriation de mon pouvoir politique est organisée par la démocratie et non même de la démocratie, par le fait que voilà qu'on a des représentants et que une fois qu'on a glissé le bulletin de vote, on sait qu'on est coincé. Si on dit ah mais enfin bon, vous aviez pas de pistolet sur la tempe au moment de mettre votre bulletin, donc maintenant c'est le jeu démocratique, ce qu'on appelle le jeu démocratique, qui est une espèce de deal d'obéissance quoi.
Clotilde Le Guil, une figure de la désobéissance, c'est Albert Camus. D'ailleurs, j'ai noté que enfin il me semble pas que vous en parliez livre, Frédéric. Vous n'aimez pas Camus ?
Si, bah pourtant il y a L'Homme révolté, mais c'est un texte qui a été très important pour Clotilde et peut-être moins pour moi. Voilà.
Alors là, c'est vraiment la révolte comme affirmation à se choisir un destin avec L'Homme révolté de Camus, Clotilde Le Guil.
Oui, ce qui m'a beaucoup intéressée dans L'Homme révolté, c'est la façon dont Camus affronte ce qu'on pourrait appeler les paradoxes de la révolte. D'une part, il fait l'éloge de la révolte comme affirmation, comme nécessité de poser une frontière, c'est-à-dire un non en quelque sorte, mais qui est aussi finalement un oui à soi-même, comme on le disait tout à l'heure, hein. Et ça me fait penser à cette très belle phrase de Stefan Zweig dans Le Monde d'hier qui dit qu'à un moment, il a fallu qu'il dise non à l'époque, à l'histoire, pour se dire oui à lui-même. Donc il y a cette dialectique entre le oui et le non qui est très belle. Donc Camus, d'une part, fait l'éloge de cette révolte, il en montre la nécessité, mais son propos ne s'arrête pas là. Il y a tout un paradoxe qu'il met au jour, qui est celui d'un retournement de la révolte en obéissance à une idéologie. C'est-à-dire qu'il montre que s'il y a quelque chose de vital dans la révolte, il peut aussi y avoir quelque chose qui tourne au nihilisme ou à ce qu'on pourrait appeler depuis la psychanalyse la pulsion de mort, quand le sujet qui s'est révolté se soumet en quelque sorte à une sorte de commandement en lui-même qui le conduit à renoncer en quelque sorte, à cet élan initial de la révolte. Et c'est ce paradoxe que Camus soulève et qui m'a intéressée. Et il m'a semblé que, enfin c'est une thèse que je propose dans mon livre, que Lacan, en 1960, dans son séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, répond entre les lignes à Camus en essayant de penser une forme d'insurrection qui se fait au nom du désir, hein, et non pas au nom, disons, d'une idéologie, au nom du désir, et il pense cette insurrection à partir de la figure d'Antigone, qui est celle, pour Lacan, qui ne cède pas sur son désir.
Clotilde Le Guil, Frédéric Gros, vous êtes donc nos invités, vous l'aurez compris, nous parlons aujourd'hui de la désobéissance et un peu aussi de l'obéissance. J'irai pas, ça tombe bien, Brigitte Fontaine.
J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas me coucher. J'irai pas. j'irai pas à votre hôpital.
Antigone, justement, Barbara Schulz et Robert Hossein qui l'interprètent, donc qui interprètent cette pièce. C'était au Théâtre Marigny en 2003.
Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Votre politique? Vos nécessités? Vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seule juge. Et vous? Avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail? Vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui.
Écoute-moi.
Mais si je veux, moi, je peux ne pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous. Et pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout.
Tu m'amuses.
Non. Je vous fais peur. Et c'est pour ça que vous essayez de me sauver. Ça serait tout de même plus commode de garder une petite Antigone muette et vivante dans ce palais.
Frédéric Gros, Antigone, c'est l'icône culturelle de la révolte. C'est celle qui, au fond, défie toujours l'ordre.
C'est celle qui défie l'ordre. C'est celle qui se dresse quand même contre l'ordre à la fois politique et masculin.
C'est peut-être raconté en 2 minutes à Sophocle d'abord, là c'était un...
En deux minutes, en fait. Oui, la trame est posée par Sophocle, c'est l'histoire de cette jeune fille à qui on demande d'accepter qu'un de ses deux frères soit vénéré comme un héros et que l'autre soit considéré comme traître à la patrie et qu'à partir de là, on ne lui rende pas les honneurs funéraires qui étaient si importants dans les rites de la Grèce archaïque, parce qu'effectivement, on considérait que votre âme devenait fantomatique et ne pouvait pas avoir un destin apaisé tant qu'on n'avait pas fait un certain nombre de rites, dont celui de recouvrir le corps de terre. Et donc, Antigone refuse, alors même que Créon qui vient de prendre le pouvoir...
Créon qui est son oncle.
Créon qui est son oncle. Qui prend le pouvoir sur Thèbes, la ville maudite, et qui, comme tout bon politique, commence par départager entre les bons et les méchants. Et le geste d'Antigone, c'est comme ça qu'il sera repris, c'est de dire « mais nous ne sommes jamais et tous qu'une seule famille ». Et au fond, ces partages qui sont des partages politiques n'ont pas lieu au nom de cette espèce de tissu familial « je dois effectivement un certain nombre d'honneurs funéraires à mon frère et je les accomplirai contre ta loi. »
Elle a aimé à en mourir, comme l'a dit Lacan.
Elle a aimé à en mourir parce qu'effectivement, Créon se dit « bon ben c'est cette petite écervelée, je vais quand même un petit peu... »
La
pâter, lui dire « bon ben voilà, ok, on va couvrir l'affaire, etc. » Et là, elle refuse. Le geste d'Antigone, c'est effectivement d'assumer publiquement sa désobéissance, de la crier. On a entendu, là, ce qu'on a entendu, c'est la version de la nouille,
oui.
Où ce qui est mis en scène, c'est cette dimension de rage, de puissance et de cri chez Antigone. Et donc, elle refuse. Et Créon, j'allais dire, est coincé, parce qu'il peut pas, venant d'arriver au pouvoir, il ne peut pas se décrédibiliser complètement, c'est-à-dire il vient de clamer haut et fort un édit, d'accord c'est sa nièce, mais enfin elle l'a transgressé, qu'est-ce qu'il fait? Et donc il la condamne à être emmurée vivante, voilà, et ça se finit très mal pour elle.
C'est l'héroïne du désir, en tout cas pour Lacan, c'est ça, hein, Clotilde Le Guin, Antigone.
Ce qui est important peut-être aussi de rappeler, c'est que, en tout cas Lacan lui s'appuie sur l'Antigone de Sophocle, c'est que sa lignée est maudite. La lignée des Labdacides est maudite. Antigone elle-même est fille d'Œdipe et de Jocaste, donc marquée par l'inceste, sa lignée est marquée par l'inceste et le parricide. Et Lacan dit assez joliment d'elle qu'elle est, que c'est une héroïne à bout de course. Elle est au fond en quelque sorte celle qui est déjà au-delà même de la vie. Elle est presque déjà dans un monde de la mort.
Mais c'est une façon assez inédite de l'interpréter.
Oui, c'est assez inédit, mais ce qui est, enfin, ce que je trouve très beau justement, et c'est là où il m'a semblé qu'il y avait une réponse à Camus, c'est que dans le nom d'Antigone, dans le fait qu'elle ne se laisse pas faire, dans le fait qu'elle oppose à Créon ce choix sur lequel elle ne cédera pas, il y a aussi un acte qui vient faire coupure avec son destin. C'est-à-dire, bien qu'elle vienne d'une lignée maudite, elle considère que son frère Polynice a droit à une sépulture, c'est-à-dire qu'il a droit à entrer dans l'ordre symbolique, à avoir un nom comme étant celui qui a existé et qui fait partie de l'humanité. Donc c'est ce qui est très beau dans ce personnage du point de vue de son insurrection, c'est qu'il s'agit pour elle en quelque sorte de renouer avec un ordre symbolique qui a été bafoué par toute cette lignée, par la transgression de l'inceste, par le parricide, et elle finalement choisit au nom de ce qu'est un frère comme dit Frédéric, c'est-à-dire un frère comme un signifiant qui dit quelque chose d'une famille, qui dit quelque chose de l'humanité, au nom de ce qu'est un frère, elle ne cédera pas sur son choix d'enterrer Polynice. Et donc il y a là une dimension d'acte chez elle, et c'est ce qui fait dire aussi à Lacan qu'elle est une héroïne du désir au sens d'une certaine éthique du désir, au sens où d'assumer un désir, ici on voit bien qu'il ne s'agit pas uniquement du désir sexuel, hein, mais d'assumer un désir, c'est-à-dire une puissance d'agir, hein, suppose aussi un courage, hein, et un certain sacrifice. Et donc, cette formule bien connue de Lacan qui dit que la seule chose dont on puisse être coupable, c'est d'avoir cédé sur son désir, elle est incarnée à l'envers par l'héroïne d'Antigone, parce que elle est celle qui ne cède pas, mais ce qui est intéressant, c'est que elle ne cherche pas à prendre le pouvoir, elle ne cherche pas à se substituer à Créon, mais au fond elle pose une limite à l'ordre du pouvoir, une limite au fait qu'il y a un autre ordre qui existe, qui est l'ordre symbolique et qui est l'ordre du désir.
Mais vous avez évoqué l'éthique, on est plus dans l'éthique que dans la morale, là, Frédéric Gros ?
Alors, on est dans quelque chose qui est profondément perturbant, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, ça a été rappelé qu'elle soit la fille d'Œdipe, donc à la fois la sœur de son père et la fille de son frère, hein, c'est quand même ça que ça veut dire, fait d'elle une héroïne quand même profondément ambiguë. Et d'ailleurs, faut quand même rappeler qu'elle a été l'héroïne de l'extrême droite comme de l'extrême gauche. Je veux dire par là que des gens comme Barrès considéraient que c'était la grande héroïne qui préférait à la fragilité des ordres politiques, contingents, inconsistants, le rappel de ce qu'il peut y avoir de terrien, de familial et d'ancré dans les généalogies. Elle a pu être aussi l'héroïne de Brecht, etc. Je veux dire par là qu'il y a quelque chose, et moi c'est ce qui fait qu'elle est plutôt du côté de l'éthique, de profondément dérangeant, alors que précisément la morale se satisfait des grands partages, une fois qu'on a dit il y a le bien, le mal, bah tiens, il y a effectivement des deux frères et dans tes deux frères, il y a quand même un héros et puis il y a un salaud, et c'est comme ça qu'on fait de la politique, en creusant ces partages, elle fait apparaître cette inquiétude qui consiste à dire, mais est-ce que c'est si simple que ça? C'est-à-dire une fois qu'ils sont morts, ils ont tous droit à l'hospitalité, l'hospitalité des vivants. La manière dont on va les recevoir, nous, dans notre cœur, ne peut pas se satisfaire de ces partages politiques. Et donc, c'est très dérangeant. C'est une pièce Antigone où il y a des renversements, parce qu'il y a quand même elle qui est emmurée vivante, alors que son frère mort, lui, est exposé sans sépulture au plein ciel. C'est la jeune fille fragile et frêle qui s'oppose à Créon, qui doit représenter toute la masculinité politique et forte. Tous ces renversements et tous ces... Ce qui fait qu'Antigone est une pièce qui a traversé les âges, hein, il y a quelques années, quelques décennies. On a réécrit une Antigone qui s'appelait Antigone voilée, en reposant le problème du voile et par l'entremise d'Antigone. Ce qui fait qu'elle traverse à ce point les âges, c'est que précisément, elle ne se situe pas dans les grands partages de la morale, mais dans une espèce d'inquiétude éthique qui n'a pas de fin.
I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
I have a dream, donc Martin Luther King, dans son célèbre discours du 28 août 1963. Frédéric Gros, vous allez nous dire, parce que le sujet politique est brûlant et je sais que c'est très présent dans votre pensée, mais d'un mot, Clotilde Le Guil, je voudrais revenir sur quelque chose qui peut-être nous touche tous, mais y compris les héros. Comment est-ce qu'on fait pour dépasser, au fond, l'angoisse qu'on a tous, parce que nous sommes tous des humains, causée par le désir de désobéissance? Pourquoi est-ce qu'on y va quand même? Pourquoi est-ce qu'on désobéit malgré tout? Est-ce qu'il y a une voix en soi qui vous dit de désobéir?
Alors moi, j'aborderais les choses à l'envers, c'est-à-dire que justement, pouvoir désobéir à ce qui vient maltraiter notre désir, à ce qui vient maltraiter notre existence, suppose de franchir un certain point d'angoisse, c'est-à-dire de pouvoir désobéir aussi en soi-même à ce qui vient faire autorité en nous et qu'en psychanalyse on appelle le surmoi. Et moi je me suis intéressée aussi à l'étymologie du verbe obéir, qui est très intéressante aussi du point de vue psychanalytique, parce que ça nous ramène à ce qui entre par nos oreilles.
Prêter l'oreille, oui.
Obéir, c'est se soumettre à ce qu'on entend. Prêter l'oreille à et s'y soumettre. Et ça nous ramène donc là à quelque chose qui touche le corps. La question de l'obéissance et de la désobéissance n'est pas seulement une question intellectuelle, c'est une question qui nous prend aussi au corps. Car ce qu'on entend, finalement, d'une certaine façon, on l'incorpore. Hein, on voit là, on vient d'entendre Martin Luther King, ça nous a, voilà, I have a dream, cette scansion, comme ça, qui revient, nous a fait quelque chose. Donc, ce qu'on entend nous prend au corps, aussi bien, on pourrait dire, du côté de ce qui peut faire emprise, du côté d'injonction, de commandement, qui s'immisce en nous et auquel nous finissons par obéir, alors que nous souhaiterions y désobéir, que du côté de ce qui va faire l'événement amoureux, les mots qui font l'amour et qui là nous prennent au corps autrement. Donc en fait j'ai voulu...
Les mots qui font l'amour,
c'est une phrase de Breton. Voilà, c'est pour dire que voilà, ce qui nous prend au corps, ce ne sont pas seulement les commandements, mais aussi des mots qui peuvent venir nous bouleverser et susciter un désir.
Mais une parenthèse au sujet justement des mots et de la parole, c'est La Rochefoucauld aussi dont vous parlez, il me semble, dans votre essai. Si les hommes n'avaient jamais entendu, les hommes et les femmes évidemment, n'avaient jamais entendu parler de l'amour, ils seraient jamais tombés amoureux.
Oui, ah, voilà.
C'est absolument génial.
Ben, c'est une citation que reprend à plusieurs reprises Lacan, qu'il adorait, mais effectivement, oui, qui nous rappelle que l'amour, ce n'est pas seulement une question de rencontre des corps, mais c'est de rencontre des corps depuis aussi un discours. Hein, on revient sur ces fragments de discours amoureux de Barthes, et au fond, c'est vrai que ce qu'on entend, le discours amoureux, peut nous propulser du côté de la vie, mais ce qu'on entend, lorsque cela a à voir avec un discours plus ou moins toxique, peut aussi nous conduire à obéir à ce qu'on ne veut pas. Et donc là, il me semble que ça permet de penser la désobéissance depuis, en tout cas avec la psychanalyse, depuis une instance qui est le surmoi et qui suscite en nous une certaine angoisse. Parce que cette voix de l'autre, en quelque sorte, on l'a intériorisée et c'est ce qui fait qu'on éprouve une angoisse par rapport au fait de désobéir à une injonction dont on ne sait plus très bien si elle vient de nous ou si elle vient de l'autre. Et c'est là où il y a en quelque sorte un parcours, un franchissement nécessaire pour retrouver le fil du désir quand on l'a perdu.
Qu'en pense le philosophe Frédéric Gros qui fait oui de la tête ? Donc apparemment vous êtes d'accord.
Oui, je ne peux qu'être d'accord. Je reviens sur Martin Luther King, ce qui
d'ailleurs avait... on évoquait Thoreau tout à l'heure. Martin Luther King a été largement inspiré par Thoreau.
Oui, Martin Luther King comme Gandhi d'ailleurs, qui est aussi un des grands, j'allais dire apôtre, non, on peut peut-être pas dire ça. En tout cas, un des grands piliers de la désobéissance civile, une des grandes incarnations de la désobéissance civile avec sa marche sur le sel, etc. Donc je dirais que ce qui nous saisit dans ces mouvements de désobéissance civile, c'est la capacité soudain qui se découvre de désobéir ensemble. Ce qui est, j'allais dire, peut-être le plus difficile politiquement, parce que l'obéissance est immédiatement ce qui fait communauté. C'est-à-dire que la communauté d'obéissants est une communauté homogène, et ce qui rend, je reprends ce que disait Clotilde à l'instant, ce qui fait que la désobéissance peut être difficile, ça peut être aussi la peur de la solitude. C'est-à-dire, oui, ok, désobéir, mais enfin, qu'est-ce que c'est que de s'exposer dans cette solitude alors que je suis pris dans un groupe qui a ses normes, ses comportements majoritaires et qu'au fond, ça procure quand même un certain sentiment de sécurité, une certaine chaleur, etc. Et c'est vrai que dans la désobéissance civile, ce qui surgit, c'est cette espèce de contagion où alors qu'on avait dit jusque-là « et si je ne suis pas moi, qu'il sera à ma place ?» on a ici « et si je suis moi proprement, qu'est-ce que je suis si je ne suis pas pour les autres et avec les autres ?» Et ce moment qui est le moment de réappropriation politique et d'ouverture du moi propre sur les autres pour un projet commun et à partir quand même d'un sentiment d'injustice, et on fait la boucle avec Indignez-vous, c'est-à-dire que ce sentiment d'injustice à partir du moment où il s'autorise dans le discours, il peut faire contagion. Or, qu'est-ce qui fait que ça fait contagion à tel moment et pas à un tel autre?
C'est
l'énigme de l'histoire.
Ça aussi, vous en parlez dans votre essai Désobéir. Pourquoi est-ce qu'au fond, on peut être assez vite d'accord, par exemple, sur la désespérance actuelle de l'ordre du monde, et en même temps, pourquoi est-ce que ça reste si difficile de lui désobéir ?
Mais parce qu'on se met avant tout d'accord sur nos lâchetés. Ce qui fait qu'on peut prendre n'importe quelle réunion institutionnelle, etc. Quand on sent qu'il y a quelque chose qu'on pourrait dire, ce qu'on est prêt à mettre d'accord, c'est nos renoncements, c'est nos lâchetés. Parce qu'il y a cette difficulté à s'autoriser et à faire valoir cette effraction, cette rupture, alors même que tout le monde la veut.
Vous assistez à beaucoup de réunions, vous, dans votre boulot ?
Oui, quand même. Toutes les réunions institutionnelles. Mais non, mais vous sentez bien quand il y a de la gêne, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, etc. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dès que quelqu'un ose prendre la parole, il y a ces moments de ralliement parce que le propre a cette dimension politique qui est une dimension qui rallie et s'ouvre, j'allais dire, le secret éthique de la politique, à savoir il est possible de désobéir ensemble.
Vous êtes bien sur France Inter et c'est l'heure philo que vous écoutez. Miracle. Reveal yourself to me. Miracle. Your help could set me free. Miracle from above. Holy. C'était Mac DeMarco sur France Inter au sujet de se désobéir ensemble. Clotilde Le Guil, dont parlait Frédéric Gros, j'ai senti que vous aviez envie de dire, d'ajouter quelque chose.
Oui, parce que depuis le début de cette conversation ensemble, on a évoqué le jeu. Le fait de la première personne, la nécessité de la désobéissance en première personne, et puis on évoque aussi le nous. Et donc, je me venais l'envie quand même de distinguer ces différents statuts du nous. Il y a effectivement un nous de l'obéissance, qui est le nous d'une forme de lâcheté, d'une forme de conformisme, et peut-être aussi de l'expérience rassurante d'une fusion, hein, qui c'est de faire un, au fond, avec un groupe. Mais il y a aussi un autre statut du nous qu'évoquait Frédéric. Alors, dans son livre « Désobéir », il l'évoque par exemple en évoquant l'amitié. L'amitié comme pouvant être aussi un foyer de désobéissance, hein, et finalement peut-être un des plus précieux, hein, et un régime ou un groupe ou un parti qui interdirait les amitiés, au fond, et vraiment interdirait toute possibilité de désobéir, toute possibilité de discours qui ne soit pas contrôlé et surveillé. Et j'avais envie d'évoquer aussi le nous amoureux, en pensant notamment à cette rencontre absolument improbable qui se produit dans 1984 de George Orwell, où on est vraiment dans ce régime de la surveillance, où c'est la disparition du jeu, la disparition de toute intimité, de toute singularité. Et pourtant, Winston et Julia vont se rencontrer, tout en essayant de cacher les conditions de leur rencontre, puisque l'un et l'autre se savent surveiller par Big Brother. Et donc, il y a quelque chose de très beau dans cette rencontre qui montre que là, l'amour est toujours aussi, en quelque sorte, ce qui échappe au contrôle, aussi bien au contrôle en soi-même qu'au contrôle, au fond, d'un pouvoir qui chercherait à priver les individus de leur histoire et de leur désir.
Et heureusement d'ailleurs, mais être obéissant, Frédéric Gros, ça peut aussi finalement être un monstre. Il y a des monstres d'obéissance.
Oui, il y a des monstres d'obéissance.
On pense à Adolf Eichmann.
On pense à Eichmann, et c'est vrai
qu'il n'y a pas que lui.
Il n'y a pas que lui. Et le problème, c'est celui de ce qu'on appelle les nouveaux Eichmann, et jusqu'à quel point, effectivement, chacun ne fait pas, ici et là, j'allais dire à la mesure de sa petite personne, un micro Eichmann. Je crois que ce qui... Parce que c'est Hannah Arendt qui a révélé quelque chose comme la provocation éthique de ce personnage qui lui a fait forger cette expression qu'on lui reprochera tant de
banalité. Et sur laquelle on s'est trompé, la banalité du mal.
De banalité du mal, effectivement. Et qui, précisément... Alors, l'espèce de paradoxe, c'est qu'au départ, on va construire l'obéissance comme étant ce qui nous permet d'accéder à l'humanité. C'est-à-dire, pendant très longtemps, on considère que quelqu'un qui est incapable d'obéir, c'est quelqu'un qui reste complètement prisonnier de ses pulsions sauvages, anarchiques, etc., qui n'arrive pas à suivre les règles communes. Voilà. Et donc, la voie... Ce que nous apprennent à la fois la religion, l'éducation, l'armée, etc., c'est que la voie du salut et du devenir civilisé, ça passe quand même par l'obéissance.
Or là, c'est la désobéissance qui humanise. Dans le cas d'Eichmann, ça aurait été la désobéissance.
Exactement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se donne comme pôle d'opposition, non plus l'homme civilisé, obéissant aux règles communes et l'espèce de bête sauvage en proie à ses pulsions, mais qu'on considère que la vraie polarité, c'est entre l'homme et la machine... La machine, elle obéit, elle fonctionne, elle obéit parfaitement. Et à partir de là, quelque chose comme de l'humanité peut passer à partir d'un geste d'obéissance. Parce que le problème de l'obéissance, c'est qu'on... Si vous voulez, l'obéissance est le refuge de la déresponsabilité. C'est-à-dire ce qui est... il s'agit pas de faire l'éloge de la désobéissance pour la désobéissance, mais on voit bien que obéir, c'est cette manière par laquelle je peux agir sans être l'auteur de mon acte.
Oh, mais c'est j'ai d'ailleurs la défense d'Eichmann, hein,
c'est exactement
qui a dit qu'il
ça.
Avait été un simple agent, un levier. Enfin, ouais.
Je suis un agent, après tout, vous ne pouvez rien me demander puisque je n'ai jamais fait qu'obéir. Et donc, en obéissant, je ne suis pas responsable. C'est-à-dire, je suis pas l'auteur. Alors, si l'obéissance, c'est précisément la capacité à pouvoir faire des choses sans qu'on puisse me demander compte de rien, bah, si vous voulez, c'est une espèce de facilité folle. Et c'est ce que Arendt appelle la bêtise d'Eichmann. Mais la bêtise, c'est pas de l'ignorance. C'est des gens très intelligents, mais des gens qui refusent au moment où ils font ce qu'ils font, de penser qu'ils sont en train de les faire et de les assumer. C'est ça, si vous voulez, Eichmann, c'est là qu'on l'a mal compris, est responsable de sa bêtise. C'est-à-dire qu'au fond, on est toujours responsable à un moment de considérer, bah oui, voilà, j'obéis, donc rien à voir, demander au donneur d'ordre, mais moi, je n'y suis pour personne. Moi, je n'y suis pour personne.
Clotilde Le Guil, est-ce que parler, ou écrire d'ailleurs, est un acte de désobéissance ?
Alors, ça peut être un acte de désobéissance. Là, je pense, pour reprendre sur cet exemple d'Eichmann et surtout sur le texte de Arendt que je cite aussi dans mon livre, je pense à l'instrumentalisation qui a été faite aussi de la notion de devoir. Par Eichmann, et Hannah Arendt cite Kant et la façon dont Eichmann s'est référé à la philosophie morale de Kant pour rendre compte du fait qu'il avait fait son devoir. Et il y a là quelque chose de très obscur dans cette notion de devoir. Quel est mon devoir ? Jusqu'où dois-je obéir? Et je réponds en quelque sorte de cette façon à votre question. C'est à un moment, se taire peut être en effet un acte de lâcheté, et il peut y avoir un devoir de dire quelque chose.
De dire ou de faire. On peut penser au cas de Paul Watson, hein, dont il est beaucoup question en ce moment. Cet homme n'a pas pu s'empêcher d'agir, de dire et d'agir. Parce qu'il était face à quelque chose qu'il considérait comme inacceptable.
Oui, on a vu ça aussi dans ce très beau documentaire sur les résistants au régime du Kremlin, avec ce jeune homme, Arseny, qui n'a pas pu s'empêcher de dire et de montrer son opposition au régime. Donc il y a cette dimension-là. Et ce que je voulais aussi ajouter sur cette notion de devoir, c'est qu'il y a une autre monstruosité de l'obéissance, parce que c'est l'expression que propose Frédéric Roux qui est très frappante, il y a une autre monstruosité de l'obéissance que j'essaie de mettre à jour dans la déprise, qui est l'obéissance à une injonction de jouissance. C'est encore une autre facette, enfin c'est pas sans rapport avec la question de la cruauté bien sûr, mais finalement il y a aussi une obéissance qui peut être qui peut prendre les allures de la révolte et être une obéissance à une injonction de jouissance, et c'est d'une certaine façon la façon dont Lacan va relire Sade et le surmoi du côté sadien.
Et on peut s'obliger librement à l'obéissance ou à la désobéissance. Le mot de la fin, mais vraiment très court, Frédéric Gros.
Oui, tout à fait. Le tout, c'est effectivement, quand on obéit, d'obéir à la première personne. Et c'est ça qui est le plus insupportable pour les régimes politiques, c'est quand on dit « j'obéis, oui, mais de mon propre chef ». C'est-à-dire, même quand j'obéis, c'est moi qui commande.
Merci beaucoup à tous les deux. Frédéric Gros, « Désobéir » est paru en poche chez Albin Michel. Clotilde Le Guil, « La déprise », et c'est sur les ressorts intimes de la désobéissance, c'est au seuil. Merci.
Merci.
Merci.